Bienvenue aux conférences du Centre international d'évangélisation. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir et un honneur de partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec chacun d'entre vous. Et nous vous bénissons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur la nouvelle série de l'Esprit de leadership, dont le grand titre est « Le bonheur et le vrai succès ». Nous avons vu à la dernière session, lors de la dernière session, que l'importance du plan dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un pays, on a besoin d'un plan de développement, d'un schéma, d'un plan de développement. Pour construire une maison, on a besoin d'un plan. Sans plan, il est impossible à un maçon de construire une maison. Sauf qu'il peut bâtir un bâtiment simplement comme ça, mais pas ce qui conviendrait aux pensées de celui qui est l'initiateur, en quelque sorte, celui qui est le propriétaire du bâtiment. Il en est de même dans la vie des hommes. Pourquoi tant de gens errent à gauche, à droite? Pourquoi tant de femmes sont dans l'abattement? Tant de jeunes gens sont sans espérance? Parce qu'ils n'ont aucun schéma, aucun plan dans leur vie. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'un plan. Et le rôle d'un plan, c'est d'aider une personne à retrouver son chemin pour parvenir à un point de chute bien précis. Je vous l'ai dit la dernière fois, supposons que quelqu'un se trouve à Paris et il veut aller visiter les Champs-Élysées. Et ayant une voiture, il demande simplement donc dans un bureau de tourisme d'acheter une carte. Et supposons là-bas que les gens du bureau de tourisme lui vendent la carte de Lyon. Et le monsieur va déployer la carte de Lyon, va chercher, va regarder. Peut-être qu'il trouvera à Lyon une rue qui s'appelle les Champs-Élysées. Il va suivre cela, mais je vous pose la question. Est-ce qu'il arrivera aux Champs-Élysées de Paris? Non, parce qu'il a un mauvais plan dans sa main. Votre bonne volonté ne suffit pas. La vision est insuffisante si vous n'avez pas un plan adéquat, un plan précis pour votre vie. C'est vrai que le plan ne peut être détaillé au départ, mais au fur et à mesure, le plan peut être adapté, le plan peut être modifié et à la fin de votre vie, vous arriverez à un bonheur et un vrai succès. Nous avons dit que le bonheur, le vrai succès, ne se comptabilise pas en quantité, en termes de compte bancaire. Beaucoup de gens ont un compte bancaire bien fourni, mais ils n'ont ni le bonheur ni le vrai succès. Ça ne se compte pas en termes de diplôme. Nous voyons beaucoup de diplômés qui errent ça et là, sans joie, sans bonheur. Ça ne se compte pas en termes de titres, non. C'est un élément de repos intérieur d'abord. Le vrai bonheur commence à l'intérieur de l'homme, quand l'homme est en adéquation avec lui-même, quand l'homme est en adéquation avec Dieu, quand l'homme est dans un repos, non pas selon ses pensées. Il y a des gens qui disent « oui, moi je suis en harmonie avec moi-même ». Ce n'est pas vrai, ça c'est un égoïste. Un égoïste peut être en harmonie avec lui-même, il ne veut pas donner à quelqu'un. Il donne à personne, il ne reçoit de personne, mais c'est un élément fermé sur lui-même et qui va fermenter. Alors c'est pourquoi le bonheur et le vrai succès sont un processus continu de recherche et qui va aboutir à un bien-être mental, psychique, un repos intérieur et qui vous permet d'affecter les autres de façon positive, qui vous permet d'aider les autres sans être dans le stress, sans vivre dans l'égoïsme ou l'ingratitude, mais s'ouvrir aux autres comme une fleur qui s'ouvre en été et que les gens viennent admirer. Les gens voient la beauté de cette fleur-là. C'est ça, le bonheur et le vrai succès. Et aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « L'habitude ». Parce que l'habitude est très très importante pour le bonheur et le succès. Les mauvaises habitudes que vous avez cumulées dans votre vie vont vous créer des problèmes. Et les bonnes habitudes vont vous amener à bon port. Et c'est pourquoi, n'oubliez pas que nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Nous sommes. En quelque sorte, nous sommes la finalité des actes, des paroles et des pensées que nous répétons chaque jour. Nous ne pouvons pas aller au-delà de nos pensées, de nos paroles et de nos actes que nous posons tous les jours. Chaque être humain, réfléchissez. C'est ça qu'on appelle, en gros, les habitudes. On va le voir en détail tout à l'heure. Je dis et je répète que votre pensée est une semence. Votre pensée est une graine, est une semence. Et chaque fois que cette pensée-là devient une action, cette pensée semence se manifeste en action, alors vous êtes en train, si vous n'y prenez garde, de créer une habitude dans votre vie. Si cette pensée-là se répète régulièrement, quotidiennement, ou de façon à un cycle régulier, cette pensée semence-là, qui se manifeste en action, va produire ce que nous appelons une habitude. Cela devient une habitude dans votre vie. Et quand cette habitude s'installe de façon durable, cette habitude-là s'installe en vous, cette habitude va produire un caractère. C'est l'ensemble des habitudes de la vie d'un homme qui forme son caractère. Il est habitué à se lever, ça. Il est habitué à faire telle chose. Il est habitué à parler comme cela. C'est ça qu'on appelle le caractère. Et quand le caractère a été moulé, le caractère va produire simplement un destin. Peut sceller votre destin de façon définitive, négativement ou positivement. Le monde extérieur ne peut pas vous changer si vous avez vous-même. Non, les gens disent c'est à cause de celle-là. Et les femmes disent c'est à cause de mon mari, je ne suis pas heureux. Les hommes disent c'est à cause de ma femme, je ne suis pas heureux. Non, non. Le problème est déjà que vous n'êtes pas en harmonie. Vous êtes déséquilibré intérieurement sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan du rejet. Il y a un déséquilibre émotionnel en vous. Et comme vous n'arrivez pas à contrôler cette passion, ces sentiments, alors quand les autres en voient, ils ne font qu'amplifier ce qui existe déjà en vous. Ce qui existe déjà en vous. Réfléchissez, vous allez voir. Si vous pensez, si vous n'avez pas de la valeur sur vous-même, chaque fois que quelqu'un dira une parole négative sur vous, cela va vous choquer, vous blesser, parce que vous avez vous-même cette pensée sur vous. Mais un homme qui sait qui il est, qui connaît son identité, qui sait qui il est, même si on le dit avec ta tête de porc là, ça ne dit rien. Vous entendez? Excusez-moi le terme. Non, ça ne dit rien. Et quand il se regarde au miroir, il sait qu'il n'a pas une tête de porc. Quand il se regarde attentivement, il sait bien qu'il est un homme, il a de la valeur. Il sait qu'il est un homme équilibré, un homme vraiment complet. Et ça ne lui dit rien. Mais un homme qui déjà se sous-estime, qui a des complexes, qui est rempli de culpabilité, dès que vous dites une parole, il est comme un canari poreux qui laisse sortir l'eau de tous les côtés. Il ne peut pas aller de l'avant. Et c'est cela qui fait que, malgré les diplômes, malgré l'argent, les gens n'ont pas le bonheur et le vrai succès parce que ça sont les éléments extérieurs. L'argent est extérieur à ma vie. Les gens sont extérieurs à ma vie. Si ma propre vie n'est pas bien identifiée, si ma propre vie intérieure n'est pas équilibrée, je serai entre les gens et ils vont me maltraiter. Tout ce que les gens vont dire, ce que les gens pensent de moi, ce que les gens disent simplement, tout cela va affecter de façon négative ma vie. Donc c'est pourquoi je dis encore, votre pensée, les pensées qui sont en vous, c'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne, c'est dans Philippiens 4, verset 8, si je ne m'abuse, tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Et si l'objet de vos pensées, c'est des choses réelles, des choses vraies, durables, personne ne peut vous affecter. Il est dit que la paix qui surpasse toute intelligence remplira votre cœur. La paix de Dieu, la paix avec les autres, sera un élément réel dans votre vie. Là, c'est important que nous comprenions ces paroles-là. Et si nous comprenons ces paroles-là, nous pouvons aller de l'avant. Donc, je répète encore, toute pensée est une semence. 1. Et toute pensée semence que je sème produit, donc devient une action. Et cette action qui est répétée, soit quotidiennement ou de façon régulière, va produire, devenir une habitude. Et cette habitude-là, si elle n'est pas modifiée rapidement, si elle est une mauvaise habitude, cette habitude va mouler mon caractère. Et le caractère qui a été moulé par les mauvaises habitudes va produire un destin terrible, un échec, un manque de joie. Et tout le temps, vous vous en prendrez aux autres parce que vous pensez que les autres produisent. Les autres ne peuvent pas produire votre bonheur. Personne ne peut changer quelqu'un d'autre. Vous le savez? En tant que parent, vous le savez très bien. Personne n'a jamais pu changer son fils. Personne n'a jamais pu changer. Aucune femme n'a jamais pu changer son mari. Et aucun mari ne peut changer sa femme. Le changement est d'abord intérieur. Le changement ne vient pas simplement des paroles. Non, c'est une décision intérieure. C'est une information que la personne a. C'est une connaissance que la personne a. Et cette connaissance, il sait comment l'utiliser. Et il a le désir de l'utiliser pour son bien-être. En ce moment-là, cette personne qui a décidé de se changer, le changement vient de l'intérieur. C'est pourquoi nous avons vu la dernière fois que vous pouvez être transformé par le renouvellement de votre intelligence. La transformation se produit lorsque vos pensées intérieures sont renouvelées et alignées sur les bonnes choses ou, de façon absolue, sur la parole de Dieu. Sans cela, les gens disent que moi, voici, ce sont mes pensées personnelles. Les pensées personnelles, si je prends mes pensées personnelles, chacun a ses pensées personnelles. Supposons 10 personnes qui se réunissent pour faire une réunion. Chacun campe sur ses pensées personnelles. Est-ce qu'il y aura une entente? Il n'y aura pas d'entente. C'est pourquoi les réunions se nouent et se dénouent. C'est pourquoi dans les grands cercles, que ce soit les cercles de l'ONU, les cercles dans les pays, il n'y a pas d'entente. Pourquoi? Chacun vient avec ses pensées personnelles. Et dans la salle, il y a 10 personnes, il y a 10 pensées personnelles qui sont en train de se bagarrer, qui sont en train de s'entrechoquer. Et personne ne veut lâcher sa pensée personnelle au profit du bien-être général. Et on est tous choqués, on est blessés. On dit, lui, il a parlé comme cela, celle-ci a parlé comme cela, et on se trouve là, donc, dans une impasse. On ne sait pas comment progresser. Voici comment les nations succombent. Voici comment les groupes sociaux tombent. Voici comment les communautés arrivent à se diviser. Parce que chacun a sa pensée personnelle et il ne veut pas lâcher pour que le bien-être des autres. Alors, la transformation intérieure, extérieure, se produit par le renouvellement des pensées intérieures. Ça, c'est sûr et certain. Alors, regardons un certain nombre d'habitudes. Comme nous parlons d'habitude aujourd'hui, de l'habitude, regardons un certain nombre d'habitudes que nous avons développées dans nos vies et vous allez voir à travers ça, qu'est-ce que j'appelle habitude. Les habitudes que nous avons, par exemple, quelques habitudes négatives, c'est mieux, là, c'est plus facile à comprendre. Le mensonge. Le mensonge est une habitude très puissante et qui fait du dégât. Deuxième élément, sans entrer dans le détail, on va arriver tout à l'heure, le retard. Le retard au travail. Ça, c'est l'habitude des Africains. Le retard. Le retard n'est pas un problème. Ça n'affecte pas la conscience. Non, c'est normal. Mais on se lève, et on doit rentrer à 7 heures. Non, 7 heures, on quitte la maison, et chaud. Le retard. Troisième élément, l'ingratitude. C'est une habitude. Tout le temps être ingrat. Vous allez voir ce que ça va produire. L'égoïsme. Fermé sur soi-même. Je veux pour moi. Pas donner aux autres. L'impatience. La négligence. Regardez déjà ces quelques 5 ou 6 habitudes que je viens de donner et qui contrôlent le monde entier. Regardez bien. Le mensonge commence dans la pensée. Quelqu'un décide de mentir parce que il est en retard. Prenons un cas comme cela. Il est en retard. Au lieu de prendre une décision pour se discipliner, pour se réveiller tous les jours à 6 heures et changer sa manière de vivre dans la matinée pour être au service à l'heure, non. Alors, il va choisir la voie du mensonge pour s'en sortir. Alors, il arrive au bureau. Il trouve son patron à la porte qui lui pose la question, « Monsieur, est-ce à 8 heures qu'on entre ?» Il dit, « Oui, mais monsieur, vous savez, ce matin, quand je me suis réveillé, mon enfant avait des maux de ventre avec diarrhée chronique. Vraiment, on a eu peur là. Ma femme et moi, on a eu peur. » Bon, il a donné ce mensonge-là pour s'en sortir. Pour lui, le patron dit, « Ah, si c'est ça, bon, vous êtes excusé. Bon, vous pouvez entrer, il n'y a pas de problème. » Mais ce mensonge va lui donner une joie éphémère. Ah, il s'est dit, mais avec le mensonge, je peux m'en sortir. Mais il ne sait pas qu'il est en train de forger ainsi son caractère et son destin pour plus tard. Étant habitué à cela, s'étant sorti lui-même de cette sanction par le mensonge, il va recommencer cela 2 jours plus tard. Et ce mensonge qui a été accepté dans sa conscience, son subconscient, va devenir son leitmotiv maintenant pour s'en sortir partout. Et chaque fois, il va utiliser le mensonge dans toutes ses relations, pas seulement dans le retard, dans toutes ses relations, c'est le mensonge. Et le mensonge devient dans sa vie ce qu'on appelle une habitude. Une habitude. Continuons. Mais au bout d'un certain temps, il a usé de toutes les formes de mensonges et il va commencer à se ridiculiser. Parce qu'au bout d'un certain temps, tous ses collègues savent qu'il ment. Plus personne n'a confiance en lui dans le service. Il est considéré comme un menteur. Mais lui, il croit qu'il s'en sort. Ça le fait rire. Il croit qu'il est un champion. Il croit qu'il est un bon roublard. Et il continue. Jusqu'au jour où il va poser un acte très important et il va utiliser encore le mensonge. Ce jour-là, le grand patron l'appelle. Non seulement on le licencie avec poursuite judiciaire. Pourquoi ? Il vient de sceller son destin professionnel. Pourtant, c'est un bon élément, c'est un bon cadre, c'est un bon travailleur, mais il a scellé son destin professionnel par cette habitude, le mensonge, qui a imprégné sa vie, qui est devenu son caractère et qui a produit donc un effet négatif sur son destin. C'est ça qu'on appelle l'habitude. Vous comprenez ? Prenez l'égoïsme, prenez l'ingratitude, quelqu'un qui n'est jamais reconnaissant, on lui fait du bien, il ne reconnaît jamais, il ne remercie pas les gens qui lui ont fait du bien, il ne téléphone pas pour leur dire merci, rien. Regardez bien sa vie. Un jour, tout le monde va se retirer. Il aura besoin de ceux à qui il devait dire merci. Ils vont lui dire, mais messieurs, vous n'êtes jamais reconnaissant. À ce niveau-là, il n'aura plus l'aide dont il a besoin au temps convenable. Alors, si nous regardons ces choses-là, nous pouvons donc résumer que l'habitude, qu'est-ce que c'est maintenant ? L'habitude, c'est le point de rencontre. Le point de rencontre entre votre connaissance, votre savoir-faire et votre désir. Trois éléments. C'est le point de rencontre. C'est un carrefour où, d'un côté, votre connaissance vient. Votre connaissance est quoi? Je sais ce qu'il faut faire et pourquoi faire. Je sais cela. Ça, c'est la connaissance. Je sais ce qu'il faut faire et pourquoi faire. Ça, c'est un. Et cette connaissance-là va rencontrer le savoir-faire. Oui, je sais comment faire. Vous voyez bien? Je sais comment faire. Et troisième élément, le désir qui est le moteur de tout cela, je veux faire. Donc, j'ai la volonté, j'ai le désir de faire. Alors, s'il s'agit de bonnes choses, s'il s'agit d'une bonne connaissance que j'ai acquise, une bonne connaissance pour mon bien-être et le bien-être des autres, donc l'habitude que je vais avoir avec la connexion de ces trois éléments, la connaissance et le savoir-faire et le désir, ça va aboutir vraiment à un changement qualitatif. Ça va produire dans ma vie le succès et un bonheur intérieur. Illustration entre mari et femme. Prenons un exemple entre les mari et femme. Le mari, il sait bien parler. Voilà, c'est un bon parleur. Ça, c'est sa connaissance. Il sait bien parler. Mais il oublie d'écouter sa femme ou vice-versa. C'est la femme qui sait bien parler, mais elle oublie d'écouter son mari. Elle oublie d'écouter son mari. Ça, c'est un. Donc, la connaissance de ce mari, c'est qu'il sait bien parler. Il a beaucoup de connaissances. Il sait quoi faire, il sait que faire, pourquoi faire, il connaît tout cela. Mais il oublie qu'il est dans une situation de relation humaine. Il n'a pas en face de lui un vide. Il a en face de lui une femme. Mais il ne sait pas. Ce qu'il ne sait pas, c'est que il ne sait pas écouter. Il sait parler, mais il ne sait pas écouter. Alors, ça c'est au niveau de la connaissance. Qu'est-ce qui va se passer? Le savoir-faire, là. Maintenant, il ne sait pas comment écouter. Le comment, le savoir-faire, il ne sait pas comment. Il ne sait pas écouter. Il oublie d'écouter les autres. Mais il ne sait même pas. Le savoir-faire, il ne sait même pas comment écouter les gens. Alors, je vous pose la question. Est-ce que cette famille-là, est-ce que ce couple-là aura le bonheur? Est-ce que ce couple-là aura le succès? C'est difficile. Pourquoi? Parce que le mari ne sait pas, sait parler du moins, mais oublie d'écouter. Et il ne sait même pas, deuxième élément, le savoir-faire, il ne sait même pas comment écouter les gens. Et troisième élément, même s'il savait écouter, il n'a pas envie d'écouter. Vous avez des gens comme ça autour de vous, que ce soit les femmes ou les hommes. Peut-être ceux qui regardent l'émission peuvent déjà regarder leur femme ou leur homme et leur mari puis sourire. Mais je n'ai pas dit de dire, ah ça c'est toi, hein. Je n'ai pas dit de dire ça, il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas elle, ce n'est pas toi, non, non, je parle à tout le monde. Je ne parle pas à votre femme ni à votre mari. Il ne faut pas dire, ah oui, l'homme là a bien parlé aujourd'hui, il a dit que les hommes ne savent pas écouter, je ne vous ai jamais dit cela. Je parle à chacun d'entre vous. Mais si cette habitude-là que l'homme a en lui va mouler son caractère, alors plus jamais il va apprendre à écouter. Alors il y aura tout le temps des tiraillements. Il ne sait même pas comment écouter. Et troisièmement, il n'a même pas envie d'écouter. Il n'a pas le désir d'écouter. Alors ce sera des frustrations dans le couple. Si c'est la femme, elle va frustrer le mari. Parce que souvent, il faut reconnaître que les femmes veulent parler, mais elles n'ont pas envie d'apprendre à écouter ce que le mari dit aussi. Et beaucoup de maris sont dehors à cause de cela. Beaucoup de maris vivent au dehors et viennent parce qu'ils aiment le silence et ils se taisent. C'est comme le cas d'Adam et Ève. Ève sait parler, mais elle a oublié d'écouter son mari. Son mari lui a dit ne touche pas à l'arbre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est parlé. Elle a commencé à parler avec l'adversaire. Elle a commencé à parler avec le serpent. Elle a commencé à développer ses thèses. Elle a commencé à démontrer, à montrer son mari. Dit, ah, la femme-là, elle sait parler, mais elle n'écoute pas. Ça, qu'est-ce que ça. Résultat, c'est que la famille a été détruite. Ça, c'est dans le Proverbe 18. Proverbe 18, verset 19. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe 18, verset 19. Comme élément de réflexion, il est écrit là-bas, Proverbe 18, verset 13, du moins, 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Alors, je vous pose la question, à vous qui êtes avec nous actuellement, à vous qui suivez, et vous qui suivez cette émission sur le bonheur et le vrai succès, et nous sommes dans les habitudes aujourd'hui, quelle est l'habitude? Arrêtez-vous maintenant, faites le point de votre vie avant que nous continuions ensemble. Regardez quelles sont les habitudes, et vous dites non, ça c'est mes habitudes à moi. Effectivement, c'est ça qui crée des problèmes. Ah oui, non. C'est-à-dire que vous avez bâti une forteresse et vous savez vous-même que la forteresse que vous avez bâtie va détruire votre vie et va détruire vos relations humaines puisque vous transportez cette mauvaise habitude au service. Par exemple, si votre patron veut vous parler, vous savez parler, mais vous ne savez pas écouter. Quand le patron dit, faites ceci, oh oui, patron, je sais, non, ne vous en faites pas, non, non, je connais ça, j'ai été formé pour ça. C'est à l'école, là, ça même qu'on a appris. Vous n'avez pas écouté exactement ce qu'il a dit. Maintenant, quand vous allez, vous ne savez pas comment faire. Ah, vous avez parlé vite, mais vous ne savez pas comment faire. Et résultat, vous vous trouvez dans une situation très difficile. C'est pourquoi les habitudes, il faut, ce sont des maisons. C'est comme les architectes, quand ils s'en vont voir la construction d'un bâtiment, dès que l'architecte voit que le fondement n'a pas été bon, il va faire payer le prix. Parfois, il peut faire casser un mur. Pourquoi il fait cela? Parce que le mur, dès le commencement, n'est pas droit. Tout le bâtiment, tout le reste du bâtiment ne sera pas droit. Et l'architecte sait que les intempéries, les difficultés vont avoir un impact sur cette maison. Et un jour, la famille peut être engloutie sous les décombres de cette maison-là. C'est la même chose. C'est pourquoi parfois, les architectes ne laissent pas aller trop loin. Ils ont des contrôles sur le terrain, sur le champ, et ils cassent tout, et même parfois les bétons, ils mettent tout à terre. Alors, si vous savez cela, changez vos habitudes et vous serez béni. Et vous allez commencer à voir comment avoir le bonheur et la joie. Nous répétons et nous disons que l'habitude, c'est la rencontre de trois éléments, la connaissance, le savoir-faire et le désir. Et si tu connais, tu sais quoi faire, tu sais pourquoi faire, tu sais comment faire et tu as le désir, alors ça crée des bonnes habitudes. Mais si tu sais quoi faire, comment faire, soit comment faire, mais tu n'as pas le désir de faire, ça va créer des mauvaises habitudes. Tu n'as pas envie d'écouter cet homme-là. Quoi qu'il dise, je ne veux pas l'écouter. Alors là, le bonheur et le succès vont s'éloigner de ton couple, de ta maison. Car vous savez ce que vous devez faire. Vous savez comment faire, mais vous n'avez pas le désir de faire la chose, alors ça va créer une habitude terrible en vous et ça va vous créer des problèmes. Alors, maintenant que nous savons que l'habitude est un élément fondamental pour le succès dans la vie d'un homme, pour le bonheur d'un homme, nous allons voir maintenant un autre élément qui est aussi important, c'est que, et qui nous aide à mouler nos habitudes, à transformer nos habitudes, c'est notre langage quotidien. Veillons sur notre langage. Le langage, la langue est très importante. Regardons dans la Bible, dans le Proverbe 18, verset 21. La Bible dit, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que cela veut dire dans le langage quotidien? Votre langue, votre propre langue, peut produire votre mort ou bien transformer votre vie, votre propre langue. Et celui qui aime les effets de la langue en mangera les fruits. Votre propre langue, ma propre langue, peut produire la mort de mon destin, peut produire la mort de ma famille. Une femme qui ne fait que parler mal et insulter, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se rend pas compte, il est dit que la femme insensée détruit sa propre maison. Comment? La femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont mariés, beaucoup de femmes sont mariées, parce qu'elles ne cherchent pas un foyer, elles cherchent simplement un pourvoyeur de besoins. Elles cherchent un homme qui a suffisamment de moyens pour l'entretenir dans sa vie égoïste, pour qu'elle fasse ce qu'elle veut, sortir quand elle veut, rentrer quand elle veut. Mais elles ne veulent pas un foyer. Un foyer est différent d'une maison. Un foyer, c'est sans mur, c'est invisible. Mais pourtant, c'est ça qui est plus essentiel que la maison, quatre murs et un toit. Alors, votre propre langue, dit la Bible ici, peut produire la mort et la vie. Et dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, Saint Jacques nous avertit aussi, et dans Jacques 3, verset 5, il nous parle de la langue. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques 3, versets 5 et 6. Il est dit ici, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Vous entendez? Un petit feu peut embraser toute une grande forêt. Ce n'est pas fini. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Vous entendez? Enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par le feu de la gêne, le feu de l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous êtes en enfer. C'est-à-dire que vous produisez avec votre propre langue un enfer dans votre maison. Vous produisez avec votre propre langue un enfer dans vos relations. Vous produisez un feu dans votre propre vie, avec votre langue. Donc, le bonheur et le vrai succès se cultivent à travers les habitudes. Mais les habitudes ont de la force lorsqu'elles sont soutenues par un langage adéquat. Un langage adéquat, un langage positif. Prenons quelques langages, comparons, nous allons voir un tableau de langage. Le tableau de langage que vous allez voir sur votre écran, et nous montre le langage négatif, le langage positif et constructeur. Langage négatif, premier langage négatif. Nous prenons un exemple. Je n'y peux rien. Quand vous êtes avec quelqu'un qui dit « je n'y peux rien », vous savez, je n'y peux rien. Moi, je n'y peux rien. C'est comme ça. C'est la vie. Je n'y peux rien. Ça veut dire que la personne a décidé, s'est bloquée pour ne pas vous aider. A décidé de ne pas faire de compromis. Pour même pour vous aider. On n'a pas de compromis négatif. Hein. La personne a dit, je n'y peux rien, je n'y peux rien. Ça, c'est le langage négatif. En face de ce langage négatif, celui qui veut construire, celui qui veut progresser, celui qui veut le bonheur, qu'est-ce qu'il lui dira? Il dit, examinons toutes les solutions, on va voir. Examinons toutes les solutions. L'autre dit, je n'y peux rien. Non, 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 le patron, prenons un patron, dit, je n'y peux rien, c'est comme ça. Ah, nous, on applique comme ça. Hein. Je n'y peux rien. Ou bien cette femme l'a dit, je n'y peux rien, tu as fait ça, c'est fini. On ne peut plus se réconcilier. Le mari peut dire, examinons ma chère femme, examinons toutes les solutions. Examinons toutes les solutions. Et un homme qui veut le bonheur, qui veut le vrai succès, a plusieurs solutions qu'il peut proposer. Deuxième langage, négatif. Je suis comme cela. Moi, je suis comme je suis. Hein. Tu me prends comme je suis. Ah non, non, moi je ne change pas. Je suis tel que je suis. Et vous mariez? Ça, c'est terrible. Si vous êtes tel que vous êtes et vous mariez, vous imposez un caillou à quelqu'un. Donc vous imposez à quelqu'un d'autre une vie terrible. Ah, je suis comme ça, hein. Moi, je suis comme je suis là. Mais celui qui veut construire a un langage positif, un langage constructeur. Lui, en face de celui qui dit « je suis comme ça, comme je suis », lui, il dit « bon, je peux aborder le problème d'une autre manière. » Tu sais, ce problème-là, on peut l'aborder d'une autre manière. Alors, il dit « non, moi, je suis comme ça. » Celui qui est positif dit « on peut l'aborder d'une autre manière, sous un autre angle. » »« Non, moi, je n'aime pas. C'est un langage, non, moi, un autre angle, c'est quoi ça? Une autre manière. Moi, je suis comme ça. » Vous voyez? Alors, comment ces deux personnes-là peuvent s'entendre? Je vous pose la question. Il n'y aura jamais de bonheur, il n'y aura jamais de succès. Troisième élément négatif. Ça me tue, hein. Tu me tues là, ça me tue ça. Ça me tue, ça me rend malade. Ça me tue, oh, ça me tue. Mais ça, c'est le langage de négatif. Ça me tue. Mais celui qui est constructeur, celui qui a un langage positif, lui, il ne dit pas ça me tue. Lui, il dit, oui, ça fait mal. Mais je contrôle, on peut s'en sortir. Oui, ça fait mal, mais je contrôle mes sentiments ici. Je pardonne. Mais le dieu, non, ça me tue, ça me rend malade. Autre élément, quatrième langage négatif. Tu sais, je suis obligé de le faire, hein. Je suis obligé de le faire. Je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de faire comme ça. C'est les gens raides, là, ils sont raides. Ils sont légalistes. Je suis obligé de faire comme ça. Mais, le positif, qu'est-ce qu'il lui dit? Je choisirai une réponse, une solution appropriée. Choisissons une réponse, une solution appropriée. Il ne faut pas dire que je suis obligé de faire comme ça. Non! Devant tout problème, il y a un compromis, une porte de sortie. Qui peut permettre aux deux d'avoir quelque chose de bien. Ah non! Moi, je suis obligé de faire comme ça, je ne peux pas faire autrement. On ne peut pas envisager autre éventualité. Non, c'est comme ça. Ça va prendre ou à laisser. Vous voyez? Cinquième langage négatif. Je ne peux pas. Ah oui, je ne m'en sortirai pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais l'autre dit, je peux le faire. On peut le faire. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Nous pouvons. Allons-y. Ah non, je ne peux pas le faire. Hein. Moi, je ne peux pas. En tout cas, je ne peux pas. Et dernier élément négatif, ça n'ira pas. Ah, quand vous le saluez, alors bonjour mon frère, ça va? Ah, ça ira demain. Non, ça ira. Mais celui qui est pour dire, gardons espoir. Lui, il dit, gardons espoir. Non, mon frère, ne vous inquiétez pas, gardons espoir dans cette... Ça va aller. Ça va aller, par la grâce de Dieu, gardons espoir. Ah non, ça n'ira pas. Je t'ai dit, ça n'ira pas, ça ne peut pas aller. J'ai bien dit, je connais mon type là, ça n'ira pas. L'autre dit, gardons espoir, ça ira. Tant qu'il y a l'espoir, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et c'est pourquoi les trois choses qui demeurent, l'amour, l'espérance et la foi. Alors, ayant vu ce tableau, ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes à la recherche du bonheur. Nous sommes en train de chercher comment nous transformer de l'intérieur, comment et manifester un bonheur pour entrer dans un vrai succès, tant au niveau individuel, qu'au niveau du couple, qu'au niveau du travail ou au niveau d'une nation. Je pose une question. Honnêtement, quel que soit, c'est pourquoi j'ai dit et je répète encore, la preuve que même les nations dites développées ne sont que développées de façon relative. Aucune nation n'est développée. Un développement réel produit le repos dans les hommes. Mais regardez les nations dites développées. C'est vrai qu'elles n'ont plus de paludisme. C'est vrai que le taux de prévalence au niveau du sida a beaucoup diminué. Mais regarde les autres maladies. Le suicide, le stress, les cancers qui tuent les gens. Mais regardez en plus là. Pour moi, une nation est véritablement développée. Dans ma pensée, hein, elle est purement relative. Donc, ce n'est pas de l'absolu que je vous dis. Si une nation est réellement développée, première chose, il y a trois éléments qu'on doit pas voir. Premièrement, les prisons. S'il y a prison dans un pays, ça veut dire que le pays a des problèmes. S'il y a une prison dans un pays, alors que tous les pays du monde, là, les plus grands pays ont les plus grandes prisons, justement. Les plus grands pays de ce monde-là, ce sont ces pays-là qui ont les plus grandes prisons. Ces prisons, pour ne pas parler à leur conscience, ils les ont fait des hôtels 3 étoiles. Ils les ont construits, ils ont carrelé tout pour apaiser leur conscience, pour leur faire croire qu'ils sont développés. Mais ces prisons leur démontrent qu'ils ont développé les infrastructures, ils ont développé l'économie, mais ils n'ont jamais pu développer l'homme. L'homme n'a jamais été changé. L'homme n'a jamais été changé. Deuxième élément qui pourrait dire qu'un pays est développé, selon ce que je dis, c'est relatif, je l'ai dit, c'est le pays où il n'y a pas d'hôpitaux. Un pays où il n'y a pas d'hôpitaux. Alors là encore, les soi-disant pays développés sont les pays qui ont les plus grands hôpitaux. C'est vrai qu'ils ont rendu les hôpitaux comme les hôtels 5 étoiles de nos pays. Mais c'est des hôpitaux. Si vous entrez dans leurs hôpitaux, vous allez entendre les mêmes cris de souffrance. Vous allez voir l'être humain dans sa déchéance. Vous allez voir l'être humain dans sa faiblesse. Troisième élément, d'un pays développé, c'est un pays où il n'y a pas de cimetière. Alors, pour moi, c'est cela. Alors que tant que le monde sera monde, nous serons à la recherche du bonheur. Nous devons nous rapprocher au moins des éléments. Nous ne pouvons pas supprimer la mort parce qu'elle ne vient pas de nous. Mais la prison prouve que les gens ne sont pas changés. Et que ceux qui sont en prison ne sont ceux qu'on a pu attraper. Mais la majorité des gens au dehors, là, ce sont des prisonniers potentiels. Vous le savez vous-même. Vous savez quand vous parlez devant une prison, vous savez que ceux qui sont là-dedans ne sont pas pires que vous. Vous le savez très bien. C'est parce qu'on ne vous a pas attrapé encore. Lui, c'était un voleur qu'on a attrapé. Toi, tu es un voleur simplement en liberté. C'est la seule différence, c'est ça. Alors, c'est pourquoi le bonheur est le vrai succès. Le bonheur et le vrai succès dépendent des habitudes que nous avons développées. Et ces habitudes-là, si elles ne sont pas soutenues par un langage producteur, un langage favorable, un langage positif, un langage constructeur, alors nous n'atteindrons jamais le repos intérieur. Nous n'allons jamais atteindre la stabilité intérieure. Notre langue va produire du feu, l'enfer, dans nos vies, dans nos maisons et dans notre travail. Notre langue va détruire notre propre avenir. C'est pourquoi veillons sur notre langage. Autre élément que nous devons voir si nous voulons progresser, si nous voulons aller vers le bonheur, nous sommes en train de chercher nos marques. Nous sommes à la deuxième session, notre nouvelle série sur l'esprit de leadership. Mais cette fois-ci, nous parlons, il n'y a pas de leadership sans un vrai bonheur et un vrai succès. Parce qu'il y a beaucoup de leaders, qu'on dit les leaders en technologie, ça ne change rien, il est leader en informatique, il est leader en ceci ou cela, il est leader en sport. Mais regardez comment les gens se terminent, regardez à Hollywood, les suicides, regardez les taux de divorce. Ce sont des leaders qui n'affectent personne, Parce qu'ils n'ont jamais connu l'équilibre intérieur. Ils n'ont jamais connu le repos intérieur. Ils n'ont jamais connu l'amour qui est le fondement. Regardons maintenant. Deuxième élément, l'amour, l'arme puissante, donc, pour une habitude performante. Si mon langage est contrôlé, je dois cultiver l'amour. Qu'est-ce que l'amour par rapport aux sentiments. Notre monde moderne a confondu les sentiments et l'amour. D'abord, si on regarde le mot sentiment, si on le divise en deux, d'un côté on a senti et de l'autre côté on a ment. Donc les sentiments. Ah, le sentiment. Donc déjà, ça veut dire que si vous ne vivez que sur des sentiments, alors vous allez tout le temps sentir le mensonge. Sentiment. Allons au-delà du sentiment. Pour vous montrer que le sentiment n'est pas réel, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous regardent, qui ont juré que sans cette jeune fille-là, il ne peut pas vivre. Quand ils voulaient la voir comme femme, ils ont juré que sans cette jeune fille-là, il ne peut pas vivre. Et aujourd'hui, ils vivent sans elle. Alors, donc vous voyez, le sentiment, le senti a menti. Ce qu'ils ont senti là, ça a été un mensonge, le sentiment. Ils ne veulent même pas la voir. Ils se demandent si elle pouvait partir même et ils vont chercher. Parce qu'ils ont confondu le sentiment et l'amour. Et notre jeunesse aujourd'hui est dans ce problème, dans cet imbroglio qu'on n'arrive pas à résoudre. On veut donner à la jeunesse du travail. C'est très bien. On veut leur donner des motos. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que l'amour. Ils confondent tout. Parce que le verbe aimer en français, son objet est dangereux. Il dit, j'aime les mangues. Moi, j'aime les cacahuètes. Après, il va dire, j'aime cette fille-là. Donc, ça veut dire quoi? Il aime cette fille-là comme il aime les cacahuètes et les mangues. Les jours que les cacahuètes ne lui plaisent pas, qu'est-ce qu'il fait? Il jette les cacahuètes. C'est pourquoi le mot aimer en français est trop faible. Trop faible. Parce que ça se base sur des sentiments. Ça veut dire que j'aime les mangues, j'aime la saveur des mangues. Quand je mange la mangue, elle est douce à ma bouche, elle est bonne dans ma bouche, elle satisfait mes sentiments. Mais le jour que je tombe sur une mangue pourrie, mes sentiments sont changés. Alors que dans le couple, il peut y avoir des temps pourris. Il peut y avoir des temps difficiles. Mais si en ce moment, on ramasse le couple, on le jette, on ramasse la femme, on jette, on ramasse l'homme, on jette, en ce moment, il n'y avait pas d'amour, il y avait un simple sentiment. Un simple sentiment. Ça, c'est important que nous comprenions. C'est pourquoi l'amour, sa définition se trouve dans 1 Corinthiens 13. Regardez, l'amour va au-delà des sentiments. Quand les sentiments meurent, c'est en ce moment que nous devons cultiver l'amour. Quand les sentiments meurent. Il est dit l'amour, 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient. Le sentiment n'est pas patient, vous le savez très bien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait point rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Espère tout. Et il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. C'est ça que nous n'avons pas pu expliquer aux gens sur le plan religieux. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les religions sont plutôt frustrantes qu'apportant le bonheur. C'est rare que les religions apportent le bonheur aujourd'hui aux gens. Parce que les religions tournent autour des actes, des devoirs. Mais la religion qui n'apporte pas un équilibre intérieur, qui n'apporte pas une paix intérieure, n'est pas une religion. L'homme aujourd'hui cherche. C'est pourquoi les gens développent toutes sortes de choses. Ils développent des exercices corporels. Vous les voyez, ils s'en vont, ils se relaxent. Ils vont au bord de la mer. Ils ferment les yeux. Les gens sont relaxés. Chacun prend des positions. Certains font comme ça. D'autres disent c'est comme ça. D'autres disent c'est le yoga. D'autres disent c'est le mantra. D'autres disent chacun. Pourquoi? L'homme est à la recherche d'un bonheur intérieur, d'un équilibre intérieur. Alors que la religion, au lieu d'apporter cela, la religion amène la division. La religion amène les soupçons. La religion amène la violence. Alors, la religion, en ce moment, n'a pas joué son rôle. N'a pas joué son rôle. Si le rôle du ciment dans la construction d'une maison, si le rôle du ciment du béton, n'arrange pas à coller les briques, à quoi sert le ciment? Parce qu'on peut poser les briques les unes sur les autres, mais elles vont tomber. Le rôle du ciment, c'est de souder les briques ensemble. La religion devait jouer ce rôle-là, c'est de souder les hommes ensemble, c'est de les souder pour que toute la maison, pour que le monde entier soit dans la paix, dans la quiétude. Mais ce n'est pas vrai. La religion, elle est terrible, terrible, terrible. L'amour n'est pas religieux, l'amour est spirituel. C'est un élément, c'est la caractéristique principale de Dieu. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu n'a pas des sentiments comme ça. Dieu est amour. Et cet amour-là est patient. Cet amour-là est plein de bonté. Cet amour-là croit tout, excuse tout, pardonne. C'est pourquoi l'élément fondamental de l'amour, c'est le pardon. Alors que si nous regardons aujourd'hui, le pardon est l'élément que les gens ne veulent pas mettre en main. Dans la famille même, la femme ne pardonne pas son mari. Ou bien elle dit, elle pardonne, je n'oublie pas. Ou bien l'homme dit, je pardonne, je n'oublie pas. Ce n'est pas un pardon. La Bible dit dans Michée 7 que Dieu pardonne et oublie. C'est ça le vrai pardon. Quand on dit on oublie là, c'est-à-dire que quand les effets, on n'a pas, le cerveau ne peut pas oublier les choses. Mais ça veut dire que quand je pense à l'acte que la personne m'a posé, ça ne me fait plus mal. C'est ça qu'on appelle oublier. Oublier n'est pas un élément physique. Parce que le cerveau, il stocke des éléments, il stocke des données. Mais l'effet négatif du mal qu'on t'a fait là, qu'on vous a fait là, ça s'en va. Quand vous voyez la personne demain, même si vous voyez la personne, vous ne pouvez plus la haïr, vous n'avez plus de soupçons. Parce que vous avez pardonné et vous avez décidé d'oublier. Et l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme, qui est en l'homme, va l'aider à effacer ces choses-là pour que le pardon soit réel. Donc c'est pourquoi, quand les sentiments s'en vont, commencez à avaler les comprimés de l'amour. Quand les sentiments s'en vont, asseyez-vous. Prenez la boîte de l'amour. Il y a des comprimés là-dedans. Un des comprimés, c'est la patience. Un des comprimés, c'est la bonté. C'est ce qu'on a dit dans 1 Corinthiens 13. Un des comprimés, c'est on n'est pas envieux. Il ne se vante point. Il ne s'envole point d'orgueil. Donc vous comprenez? Quand alors vous commencez à avaler ces comprimés-là, vous allez commencer à voir que il y a une paix intérieure qui commence à remplir votre cœur. Quand vous commencez à expérimenter l'amour, pas les sentiments, parce qu'on peut pratiquer l'amour sans avoir des sentiments. Écoutez-moi. Par exemple, il dit ici, l'amour excuse tout. Excuse tout. Quelqu'un m'a fait du mal. Ça me fait mal. Mais je décide de l'excuser. Les gens disent, comment on peut faire ça? C'est ça le vrai problème. Même le peuple de Dieu ne comprend pas ça. Pourquoi Jésus dit de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal? Alors, est-ce que Jésus, ce qu'il dit là, est-ce qu'il vit votre mal? Il sait bien que le mal que cet homme vous a fait, cette femme vous a fait, il sait ce que vous ressentez. Mais il vous dit que de pardonner, de bénir cette personne-là. Si c'était un sentiment, c'est impossible. Le sentiment n'oublie jamais. Et beaucoup de gens vivent sur le sentiment. Et leur sentiment est ravivé à chaque instant. Leur sentiment est ravivé en permanence, enlevant la joie, enlevant la paix. Comment je vais permettre que chaque fois que je vois quelqu'un qui m'a fait du mal, que mes sentiments se ravivent et que je perde ma paix? Je me fais du mal à moi, par la personne que je vois. La personne que je vois même ne sait même pas que je suis là. Mais quand moi je la vois, tout mon corps, je m'énerve contre la personne. Je suis mal en point. Alors je ne peux pas avoir le bonheur, le vrai succès. C'est pourquoi il a pu pardonner tous ses ennemis. Aucun chef religieux n'a pardonné. Les chefs religieux disent que si tu fais du mal, on va payer par le mal. Mais Jésus dit non, pardonne leur père quand ils ne savent ce qu'ils font. Il dit je vous pardonne vos péchés. Il dit allez-y, je vous remets vos péchés. Le pardon produit en vous-même une transformation. Le pardon produit en vous-même la joie. Le pardon vous transforme vous-même avant de transformer les autres. Et si vous pratiquez le pardon, alors le bonheur et le vrai succès vous accompagneront tous les jours de votre vie. C'est ça que le bon berger nous dit. Suivons le bon berger, Jésus-Christ, et imitons-le en toutes choses et il est le leader qui était dans la paix, il n'a jamais été dans le stress, et que si vous suivez ses émissions, Dieu vous aidera, sa grâce sera sur vous, et vous verrez que réellement, il est possible d'avoir le vrai bonheur et le succès sur cette terre-là. Que Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous, au nom de Jésus. Amen.